Fabien Sublet, docteur en pharmacie.
Chères auditrices et chers auditeurs de Guyane la Première, bonjour et soyez toujours les bienvenus dans votre émission de santé du samedi matin, Faux autres savez, consacrée ce matin à l'éducation thérapeutique du patient diabétique. Alors on parlera d'éducation thérapeutique, alors qu'est-ce que c'est déjà? Comment cette éducation thérapeutique peut aider les professionnels de santé, mais surtout les patients dans la conduite de leur traitement? C'est le thème du jour et pour en parler, nous accueillons Dominique Granier. Vous êtes coordinateur de la nouvelle filière d'éducation thérapeutique en diabétologie mise en place par l'hôpital de Cayenne. Bonjour.
Bonjour Fabien, bonjour tout le monde.
Nous accueillons également Élodie Hérigoyen. Vous êtes diététicienne et vous faites partie de cette grande équipe qui va encadrer les patients. Bonjour.
Bonjour.
Nous accueillons également Sébastien Lévy. Vous êtes infirmier dans le même service. Et là aussi, on verra le rôle de l'infirmier dans l'éducation thérapeutique avec vous. Sébastien Lévy, bonjour.
Bonjour Fabien, bonjour à toute la Guyane.
Nous sommes donc ensemble jusqu'à 11h. Vos questions au 31 9000 à partir de 10h30, mais également vos témoignages et vos remarques sur cette éducation thérapeutique. Mais vous pouvez dès à présent réagir sur le site Facebook fabien.sublet. Vous êtes toujours sur Guyane la Première dans votre émission Faux autres savez, l'émission de santé du samedi matin, pour parler ce matin justement d'éducation thérapeutique du patient. Alors éducation thérapeutique du patient et particulièrement l'éducation thérapeutique du patient diabétique, parce que dans le diabète, on va voir qu'il y a plein de connaissances à avoir dans ce type de pathologie. Donc que le patient doit être son propre acteur de sa guérison, et ça c'est important, mais il faut lui donner les outils. C'est un peu ça l'éducation thérapeutique, Dominique Granier, c'est donner au patient les outils de sa guérison.
Alors tout à fait, c'est permettre au patient d'acquérir des compétences pour bien vivre avec sa pathologie. Bien évidemment, tant au niveau du savoir-faire que du savoir-être, et de prendre en considération l'environnement du patient, ses craintes, ses méconnaissances, qui parfois sont difficiles à savoir. Donc cela consiste à acquérir une bonne connaissance de la pathologie, une bonne connaissance des traitements, comment ils fonctionnent, une bonne connaissance des règles hygiéno-diététiques, mais tout ça dans un cadre d'interactivité, de bienveillance par rapport à ce qu'ils peuvent savoir déjà, parce qu'il ne faut pas croire que les patients ne savent rien. Et chose fondamentale, c'est que une bonne connaissance de ce qu'est une pathologie chronique. Parce que certes, aujourd'hui on parle du diabète, mais l'éducation thérapeutique, c'est aussi pour toutes les pathologies chroniques. Et on est encore dans un inconscient collectif de dire que bon, on a une maladie à partir du moment où on ressent des symptômes. Et ce qui est très important, tout le monde est allé chez un médecin parce qu'il ressentait quelque chose. Or, les pathologies chroniques, dont le diabète, ce sont des pathologies silencieuses. Et il est très important de dire que ces pathologies silencieuses, eh ben, malheureusement, rongent un petit peu l'intérieur corporel des patients. Et dans le cas du diabète, malheureusement, il y a des chiffres montrant qu'aux urgences, si je prends cet exemple-là, il y a beaucoup de patients qui arrivent avec des insuffisances rénales diagnostiquées, associé à un diabète qui n'était pas soigné. Pas forcément mal soigné, mais qui n'était pas soigné, donc pas connu. Et donc, il faut prendre en charge tout ça, expliquer le parcours qu'il y a derrière, et pouvoir donner confiance aux patients par rapport à tout ce qu'il y a à faire, et les complications.
Donc, aujourd'hui, en Guyane, ce genre de parcours n'existait pas ?
Alors, en ce qui concerne le diabète, il y a le service du docteur Sabat qui existe déjà depuis 3 ans. Il y a un hôpital de jour qui est ouvert depuis 1 an et un hôpital 2 semaines qui prend en charge les patients diabétiques et dans lequel il y a déjà 2 infirmières d'éducation thérapeutique et qui font de l'éducation thérapeutique avec ces patients-là. Le problème, si vous voulez, c'est que faut savoir qu'en Guyane, l'incidence du diabète est autour de 8% de la population. Et depuis quelques années, c'est même exponentiel. Hein. en termes de nombres qui se et pour des chiffres qui sont connus, je ne parle pas là des méconnus. Donc l'hôpital de jour en lui-même ne suffit pas à pouvoir prendre en charge tous les diabétiques en termes d'éducation thérapeutique. Et comme en métropole, je prends l'exemple de l'offre d'éducation thérapeutique qui est autour de 60-70% hospitalière, mais pour une demande en ville, inversement proportionnelle. Et en Guyane, il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait pas d'éducation thérapeutique pour les diabétiques en ville, et il n'y avait pas non plus, peut-être on y reviendra plus tard, d'association de patients. Donc c'est des choses qui sont en train de s'initier.
Alors, comment ça se passe concrètement ? Concrètement, le patient est diabétique ou vient d'être découvert diabétique. Qu'est-ce qui se passe ? Il va chez son médecin traitant qui découvre quelquefois cette pathologie au regard de résultats, par exemple, biologiques. Mm-hmm. Alors, comment ça se passe, cette vie de ce patient, à partir du moment où il y a une possibilité d'avoir de l'éducation thérapeutique? Qu'est-ce qui va se passer à partir de lundi, puisqu'à partir de lundi,
lundi 11,
c'est là que va vraiment être lancé ce nouveau service. Donc les médecins vont avoir accès donc à un site pour inscrire ses patients. Alors concrètement, le patient, comment ça se passe pour lui?
Alors, à partir du service du docteur Sabat, il y a une unité qui s'est montée, donc une nouvelle filière d'éducation thérapeutique, qui comprend à la fois moi-même en tant que coordonnateur, le docteur Sabat en tant que coordonnateur médical, Sébastien Lévy en tant qu'infirmier ETP qui vient se rajouter aux deux infirmières dont j'ai parlé au préalable, Élodie Irigoyen pour la diététique, une médiatrice culturelle, puisque des fois on peut être amené à devoir échanger avec des patients pour briser la barrière de la langue, pour pouvoir bien communiquer avec eux. Un coach sportif pour faire des exercices, de l'activité physique, parce que dans le cadre des pathologies cardiovasculaires, c'est une nécessité. Une psychologue également, parce qu'on peut avoir des difficultés des fois dans la vie des patients et il est bon de pouvoir les soutenir. Et en annexe, si je puis dire, de façon différente, une attachée de recherche clinique qui permettra de recueillir des données pour créer un registre du patient diabétique qui permettra d'avoir une base de données sur l'évolution et l'existence des types de patients que l'on a en Guyane et voir un petit peu l'évolution au fil des ans. Donc ça, c'est la structure de l'unité qui est en train de se créer et qui a vocation à créer ce que j'appelle une UMET, une unité mobile d'éducation thérapeutique, qui ira en ville faire une proposition d'éducation thérapeutique, de programme d'éducation thérapeutique en ville sur différents sites. Pourquoi différents sites ? Parce que c'est pas toujours évident de pouvoir se déplacer quand on est patient. Et on va essayer de couvrir autant que possible, le plus dans un premier temps sur Cayenne, Montjoly et Matoury, le plus de sites possibles à proximité des cabinets en place ou des maisons de santé qui sont en train de se créer. Donc concrètement, comment ça va se passer ? Mais à partir du 11, quand un patient va voir son médecin traitant ou son diabétologue en ville pour les consultations traditionnelles, le médecin peut lui parler. Et on est en train de communiquer avec eux de ce côté-là, peut lui parler de la possibilité de suivre un protocole d'éducation thérapeutique, lui expliquer qu'il serait peut-être bien d'apprendre certaines choses, de prendre le temps d'apprendre certaines choses concernant la pathologie, tout ce que j'ai décrit au préalable. Il va sur le site internet de la DGO. La DGO, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association Diabète Guyane Obésité. Le site, le médecin sera au courant de comment se connecter à ce site. Et par l'intermédiaire de ce site, il prend rendez-vous pour un premier rendez-vous avec notre équipe, qui consiste à être un diagnostic éducatif, c'est-à-dire qu'on discute tranquillement avec le patient, savoir qu'est-ce qu'il connaît de la pathologie, quelles sont ses difficultés, sa situation environnementale. Ce n'est pas un interrogatoire, je vous rassure, c'est très interactif, ça se passe très bien, c'est très bienveillant. Et à la suite de ce diagnostic éducatif, des ateliers ou des entretiens sur des thématiques lui correspondant lui seront proposés pour revenir nous voir dans les semaines qui suivent et suivre un programme d'éducation thérapeutique.
Oui, dans un premier temps, donc on est bien d'accord, dans un premier temps, il s'agit de faire le diagnostic de l'état des connaissances du patient par rapport à sa pathologie. Là, on parle du diabète aujourd'hui, mais ça pourra bien sûr, dans les années qui viennent, être étendu à l'ensemble des pathologies chroniques. Donc, on essaie de savoir qu'est-ce qu'il connaît et pour pouvoir lui proposer des ateliers donc, qui sont également pris en charge. C'est gratuit pour lui.
C'est une offre gratuite.
Oui, c'est une offre gratuite. Oui. C'est vraiment un service qui est rendu au patient. Donc, il se verra proposer des ateliers à côté de chez lui si possible, puisque vous aurez a priori des points de chute un petit peu sur l'ensemble de l'île de Cayenne, donc pour pouvoir proposer à ces patients eh bien, les ateliers qui leur correspondent.
Tout à fait. Et ça va se décliner au fur et à mesure dans différentes thématiques, que ce soit des thématiques de base ou des thématiques un petit peu plus précises au niveau des complications ou éventuellement au niveau des appareillages à utiliser, parce que suivant le stade de la pathologie, il y a certaines choses qu'il faut savoir. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour certains profils de patients sur les appareillages et les examens à suivre, tout sera décliné au fur et à mesure.
Donc, décliné au fur et à mesure pour le patient, c'est quelque chose de gratuit. Donc, à partir de lundi 11, les patients diabétiques peuvent demander, peuvent être demandeurs, c'est quelque chose de gratuit. Donc, demander à votre médecin traitant de pouvoir bénéficier gratuitement de cet état des lieux de vos connaissances par rapport à l'éducation thérapeutique, par rapport à votre pathologie. Le patient peut lui-même être demandeur de cette participation à ces ateliers.
Tout à fait. Ça,
c'est important, hein, parce qu'on parle à nouveau du patient et du rôle du patient dans la prise en charge de sa propre pathologie. Il faut aussi que le patient sache demander un service quand celui-là est proposé.
D'autant que je précise une chose, il est le consentement du patient est nécessaire, c'est-à-dire que ce n'est absolument pas une obligation. C'est pas parce qu'on a l'impression que ce soit n'importe quel soignant que le patient ne connaît pas sa pathologie ou ne connaît pas telle ou telle chose qu'il doit être obligé de le faire. C'est suivant son libre arbitre. C'est interactif.
Interactif, d'abord avec le médecin traitant qui donc proposera, puis lors de cette séance. C'est des séances qui vont durer combien de temps, ces diagnostics
Diagnostics, c'est autour d'une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Oui. En moyenne, c'est autour de ça. Prendre le temps d'interagir avec le patient, qui nous livre un petit peu ce qui sont ses connaissances, ses problèmes, ses craintes, ses projets de vie aussi. Parce que être des fois dans l'inconscient du patient, quand s'il a appris qu'il est malade depuis peu, il s'imagine que tout va changer dans sa vie, qu'il ne pourra plus rien faire, qu'il ne pourra plus rien manger, ce qui n'est pas le cas, pas du tout. Et c'est une adaptation, c'est une prise de conscience, et c'est des choses qui peuvent se faire très calmement avec l'aide de son environnement et du personnel soignant.
Alors, sur le site Facebook, Fabien Poissublet, de nombreuses réactions, de nombreuses questions. Alors, on a Marie-Louise qui est diabétique. Elle dit-elle, qu'est-ce que cela va m'apporter par rapport aux conseils qui m'ont déjà été donnés par mon médecin?
Alors, déjà, comme je disais, ce n'est pas une obligation si elle a l'impression que ce qui lui a été apporté par le médecin, parce que cette offre ne sous-entend pas que le médecin ne fait rien. Qu'on soit clair là-dessus. Les médecins parlent avec leurs patients, leur confèrent déjà de très bons conseils. La difficulté qu'ils peuvent avoir, c'est que, là je vous ai parlé d'un temps du diagnostic éducatif qui est d'une demi-heure, trois quarts d'heure, donc c'est déjà un temps. Comprenez qu'un médecin, dans le cadre de sa consultation, ne peut pas accorder systématiquement une demi-heure, trois quarts d'heure à tous ses patients. On a un rapport de 1 sur 3 par rapport à la métropole en termes de population médicale. Un médecin ne peut pas accorder aux patients une heure de son temps systématiquement. Donc, l'intérêt, c'est que il est possible que dans le cadre du temps que le médecin lui a accordé, elle n'ait pas eu le temps d'exprimer tout ce qu'elle souhaitait exprimer ou poser comme question. Je ne sais pas à quoi elle pense particulièrement, mais il y a peut-être des choses tant au niveau médical, tant, comme je le disais, au niveau règles hygiéno-diététiques, tant au niveau prise en charge du quotidien. Vivre avec le diabète, ça implique différentes choses sur l'organisation personnelle, les prises de médicaments, les traitements, etc. Est-ce que ça a été discuté avec le médecin? Peut-être oui. Peut-être non. Et ce qui implique une difficulté à ce que peut-être, je sais pas, peut-être cette patiente est, n'a aucun problème, sa prise en charge est parfaite, il n'y a pas de souci. On peut apporter ce genre de choses. Est-ce qu'elle a la connaissance du type de complications qu'il peut y avoir si jamais le suivi n'est pas suffisamment bon? Ce type de questions, il peut y en avoir d'autres, mais je réponds un petit peu à ce que je peux penser à ce moment-là.
Alors c'est important peut-être de lui rappeler, de lui dire que dans son cas, justement, c'est intéressant ce diagnostic, parce que ça va lui permettre justement de savoir si, oui, elle connaît tout ce qu'il faut pour manager correctement, enfin pour diriger correctement sa pathologie, ou s'il y a des petites choses qu'elle n'avait pas pensées, en effet. Et puis, ce diagnostic peut être une chance, une chance pour cette patiente, parce qu'elle va pouvoir apprendre des nouvelles choses, des nouvelles données sur sa pathologie, qui vont lui permettre d'aller encore plus vers un suivi parfait, on va dire, de sa pathologie pour l'avenir. Parce qu'on sait que les pathologies type diabète, ce sont des pathologies chroniques dont les conséquences demain ne sont pas forcément visibles aujourd'hui. Donc qu'il faut bien appréhender l'histoire de cette maladie, l'histoire naturelle de cette maladie, pour pouvoir justement appréhender demain et éviter demain les complications. Donc en effet, peut-être que cette personne connaît très bien les règles diététiques, mais elle ne connaît pas forcément les complications et comment les prévenir. Donc en effet, ce diagnostic est ouvert à chacun. Donc vous pouvez à nouveau, on vous le rappelle, dès lundi 11, demander à vos médecins traitants de pouvoir bénéficier de cette action. Alors cette action, Guyane la première est bien sûr diffusée sur l'ensemble du territoire, n'est pour l'instant valable qu'à Cayenne.
Alors, on démarre. Hein. Donc, c'est pour l'instant, ça se va se passer autour de l'île de Cayenne, c'est-à-dire Cayenne, Rémire, Matoury. Ça a vocation à s'étendre aussi vers Kourou et vers Saint-Laurent par la suite, si ça marche bien, sachant qu'il y a déjà une dynamique à Saint-Laurent au niveau du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais. Mais également, au départ du service du docteur Sabat, via la gestion des centres de santé, il y a déjà des missions qui sont faites d'éducation thérapeutique dans le cadre des missions médicales concernant les communes du fleuve. C'est un programme qui se fait autour de ce qu'on appelle DIAPSAT, avec des missions médicales et des missions d'éducation thérapeutique dans les centres de santé, Marie Passoula, Grand Senti. Enfin, il y a un calendrier qui est élaboré pour ça, pour les différentes missions qui se font à ce niveau-là. Ce n'est pas exclusif à l'île de Cayenne.
Alors, une question de Josiane, qui est à peu près la même que celle de Pierre, qui dit « Est-ce que ce n'est pas possible de prendre directement rendez-vous sans passer par le médecin traitant ?» Parce que j'ai peur de le vexer en demandant de participer à ça. Il risque de penser qu'il ne m'a pas suffisamment expliqué ma maladie, me dit-elle.
Alors, non, il faut que ça passe par le médecin, mais le médecin ne s'offusquera pas. Comme je vous l'ai expliqué, il y a une réalité de terrain qui est que le médecin n'a peut-être pas communiqué suffisamment avec le patient pour une raison de temps, tout simplement. Et je fais souvent le parallèle, quand on parle un petit peu de tout ça, entre le médecin et l'infirmier, par exemple, d'éducation thérapeutique, qu'on peut faire entre le professeur et le soutien scolaire. Il y a des choses qu'on peut dire plus facilement à l'infirmier qu'au médecin qui fait office d'autorité. C'est le médecin qui a diagnostiqué, c'est le médecin qui donne le traitement. Et des fois, inconsciemment, on n'ose pas trop se livrer. Et c'est le cas type de ce patient qui pose cette question. Il n'y a pas de problème, il peut se livrer auprès du médecin, déjà. Il lui dira, il n'y aura aucune répression. Et le médecin ne lui reprochera pas d'aller se confier, si nécessaire, auprès de notre équipe, puisque de toute manière, il faut que le patient le sache, hein, on est transparent à tous les niveaux. J'ai dit dans un premier temps qu'il y avait consentement du patient, mais on crée un fichier, un dossier d'éducation thérapeutique pour faire le suivi personnalisé de ce patient. Mais il y aura un compte-rendu donné au médecin, ce qui est normal puisqu'on doit faire un suivi à la fois éducatif et bien évidemment médical. Le médecin fait ça pourquoi ? Il fait ça pour que le patient se sente mieux, gère mieux sa pathologie lui-même et pour atteindre aussi des objectifs médicaux qui le concernent, entre guillemets, plus directement. Donc, y a aucun problème là-dessus. Faut pas qu'il se formalise à l'avance vis-à-vis de son médecin. Son médecin ne lui dira rien. Il n'y a pas de problème.
Alors ça c'est important de mettre en exergue ce rôle de pivot du médecin traitant dans le système de santé français, puisqu'on veut que ce médecin traitant ait toutes les connaissances sur le patient qui lui arrive de multiples endroits, les laboratoires d'analyse, les spécialistes, etc. Normalement, le médecin traitant, aujourd'hui, doit compiler toutes ces données, doit pouvoir les analyser et doit pouvoir, en fonction de cette analyse qu'il a, eh bien, apporter au patient la meilleure solution. Et l'éducation thérapeutique fait partie des outils qui vont rentrer dans cette boîte à outils qu'a le médecin, entre le laboratoire, entre les différentes aides qu'il peut avoir au diagnostic. Et là, ce sera une aide au suivi de la pathologie. C'est extrêmement important que le médecin traitant reste le pivot de l'action. Donc chacun peut choisir son médecin traitant, bien sûr. Et donc, en fonction, pouvoir avoir un suivi correct de cette pathologie. Donc il est normal de passer par son médecin traitant pour pouvoir avoir ce rendez-vous avec l'éducation thérapeutique.
C'est le système est ainsi fait depuis, on va dire, bien longtemps. Le médecin traitant gère beaucoup de choses depuis longtemps. Mais si je prends le côté officiel des choses, c'est-à-dire depuis 2009, la fameuse loi HPST, le médecin traitant est le coordonnateur du parcours de soins de son patient. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, certes, envoyer son patient vers un suivi d'éducation thérapeutique, mais également au même titre qu'il va l'envoyer voir un spécialiste, va l'envoyer à la radio, va l'envoyer au scanner, va l'envoyer au labo. Tous ces paramètres que vous venez de décrire tournent autour du médecin. Donc il est normal qu'on renvoie un retour des activités que l'on va faire au médecin. Et dernière chose sur ce point, le patient, comme le médecin, parce qu'on a parlé de différentes activités qu'on peut qualifier de cycle éducatif. À n'importe quel moment, le médecin comme le patient peut demander à voir les données qui sont saisies au niveau du dossier partagé, qui est sécurisé, hein, je vous rassure, et voir ce qui est écrit, voir ce qui est suivi en toute transparence. Pardon.
Ça, c'est important, voilà. Cette notion d'avoir un accès à l'information. Et ça, c'est quelque chose qui souvent peut créer des petites interrogations des patients sur qu'est-ce que deviennent toutes ces données. Eh bien, elles sont accessibles. Vous pouvez voir quelles sont ces données et vous pouvez voir ce qui est transmis au médecin. Ça, c'est extrêmement important.
Il suffit de le demander. C'est pas affiché sur une page web directement. Il suffit de le demander et une exportation du dossier sera donnée aux patients et aux médecins au moment voulu. Ce qui est prévu au départ, c'est un compte-rendu in fine. Mais à n'importe quel moment, on peut voir ce qu'il en est.
Alors Sébastien Lévy, vous êtes infirmier au sein justement de cette équipe. Alors, comment se positionne l'infirmier ? On a vu que quelquefois, les patients se confient plus à l'infirmier qu'ils ne le font par rapport au médecin. Mais le rôle de l'infirmier dans cette éducation thérapeutique, alors c'est plutôt un rôle d'éducation sur les gestes, par exemple pour quelqu'un qui serait sous insuline en injection, ou qui aurait des pompes à insuline ou des choses comme ça, ou ça se fait de façon globale. Quel va être le rôle vraiment de l'infirmier dans cette unité d'éducation thérapeutique ?
Je dirais que le rôle au départ de l'infirmier, il va être donc présent dès le début du processus dans le cadre du diagnostic éducatif partagé du patient, puisque je fais partie des personnes donc, qui vont recevoir les patients justement pour avoir ce premier entretien. Donc premier entretien, comme le disait Dominique, qui va durer entre une demi-heure et trois quarts d'heure et qui permet de travailler vraiment sur l'état de la maladie, l'état des connaissances des patients. Mais je dirais aussi, l'avantage qu'on peut avoir, c'est de travailler aussi sur l'état des représentations que le patient se fait de sa maladie. Parce qu'il peut y avoir effectivement de fausses représentations autour du diabète, autour de, comme vous le disiez, par rapport à l'insuline. Je pense que quelque chose à préciser, c'est qu'un diabète, une personne qui va se découvrir diabétique, ne va pas passer à l'insuline tout de suite. C'est quelque chose qui peut arriver au bout de 10, 15, 20 ans. Ce n'est pas une fatalité en soi, dès le départ. Ensuite, dans les ateliers que nous allons pouvoir proposer, donc, une fois cette première phase d'éducation thérapeutique qui est le diagnostic, nous allons aboutir à un contrat avec le patient qui va permettre d'élaborer un programme d'éducation thérapeutique personnalisé, donc qui va vraiment correspondre à ses attentes, à ses connaissances et à ses capacités. Avec, en plus, avec la médiatrice culturelle, de pouvoir faire cette démarche-là dans sa propre langue. Ce qui est vraiment plus, qui est pas négligeable. Donc, suite à ça, nous allons lui proposer divers ateliers. Et pour les ateliers de ce qui relève de ma compétence d'infirmier, on va commencer, on a élaboré déjà un niveau de base, je dirais, un cycle de base, qui va reprendre des thèmes comme la découverte du diabète, mais qu'est-ce que c'est que le diabète ? Donc on va pouvoir voir avec le patient la physiopathologie de base, du fonctionnement du sucre dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe, où ça va aller, au niveau du pancréas, qu'est-ce qui ne fonctionne plus, pourquoi, comment. Et ensuite, nous allons à partir de la thématique physiopathologie, nous allons proposer d'autres thématiques qui vont être les complications du diabète, voir et décrire un petit peu toutes les complications possibles. Nous avons également des ateliers autour de la médication, les traitements antidiabétiques oraux. Et dans un second temps, après, on pourra aussi passer sur les traitements injectables comme l'insuline. Qu'est-ce que le stylo insuline, comment on s'en sert pour certains types de patients. Les patients qui vont être mis sous pompe également, donc les pompes à insuline, comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire quotidiennement ou au niveau mensuel, quel est l'entretien, quelles sont les actions que je dois prévoir si j'ai ce type d'appareillage. Et de façon à ce que nous puissions être une ressource.
Une ressource d'information pour le patient. Alors ça, c'est important. Donc, dans un premier temps, vous participez donc à ce grand diagnostic, on va dire. Et dans un deuxième temps, la mise en place des ateliers qui seront particuliers. Alors là, pour l'infirmier, on a vu. Alors, pour la diététicienne, alors c'est pareil. C'est d'abord ce diagnostic.
Tout à fait.
Et après, des ateliers qui vont être particulièrement dédiés donc aux patients diabétiques.
Tout à fait. Le but, après l'entretien initial, le diagnostic, c'est vraiment voir quelles sont les difficultés sur les différents ordres qu'il y a, que ce soit infirmier ou alimentaire, et en fonction des connaissances et des besoins du patient, lui proposer les ateliers qui lui sont nécessaires, aussi bien pour revoir l'organisation globale de l'alimentation avec les différentes catégories d'aliments pour pouvoir se repérer et organiser bien sa journée en tenant compte bien sûr de sa culture alimentaire, parce qu'en Guyane on est quand même sur un territoire pluriculturel et on mange pas tous pareil, même si on a tous les mêmes besoins physiologiques nutritionnels, et il faut pouvoir s'adapter à la pathologie mais aussi à sa façon d'être autour de l'alimentation, parce qu'on parle du côté chronique, ça veut dire qu'il faut réussir à bien manger pour son diabète sur du long cours et pas faire de régime restrictif, au contraire apprendre à manger mieux tout en se faisant plaisir en tenant compte de ces contraintes. Donc bien sûr, par la suite, on approfondira aussi tout ce qui est les différentes sources glucidiques, parce qu'il faut pouvoir, avec le diabète, bien doser son alimentation en fonction des rythmes alimentaires de la journée, en fonction de comment l'on est. Et puis après, en fonction des différents cas, on ne fera pas tout à fait la même chose quand on est avec des compléments oraux ou quand on est insuliné ou sous pompe. Même si la règle reste la même. On verra aussi pour gérer la cuisine, les épices, le sel, parce que l'une des complications du diabète peut être plus facilement induite autour de l'hypertension. Donc il faut aussi réapprendre à manger bien, à manger mieux, à savoir se faire plaisir et que ça reste dans la convivialité et la proximité, tout simplement la bonne entente.
Convivialité, proximité, ça c'est important. Donc vraiment que le patient sente qu'il va rejoindre un groupe. C'est un peu ça, hein, ce groupe, et ça va même plus loin, parce qu'aujourd'hui, ce groupe, il pourra être même formalisé par une association de diabétiques, c'est-à-dire des patients qui créent vraiment, autour d'une pathologie qu'ils ont en commun, eh bien, ils ont besoin d'avoir des informations communes, c'est-à-dire leurs besoins sont à peu près les mêmes. Donc, créer cette association de diabétiques, parce que c'est important, quand on a une pathologie, de pouvoir se sentir un petit peu moins isolé, avec eh bien des référents, on parlait tout à l'heure de patients experts un peu, c'est-à-dire des personnes qui peuvent donner, qui peuvent donner à un patient nouveau, par exemple, ou quelqu'un qui ne se sent pas, qui se sent trop isolé, eh bien, un peu une béquille, un appui pour l'aider à mieux comprendre sa pathologie. Alors ça, cette association, elle est en cours de création.
Alors, il y a, pour l'instant, c'est au stade embryonnaire, hein, mais il y a une volonté de créer cette association. Et pour rebondir sur ce que vous dites, je parlais au départ sur les, il y a le médecin, l'infirmier, et la richesse de créer une association avec des patients experts. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un patient expert ? C'est quelqu'un qui, déjà, a la pathologie, premièrement, et deuxièmement, qui est aussi formé à communiquer avec les autres patients. Et la richesse de cette autre étape, c'est le fait qu'il n'y a pas mieux en termes de partage, si vous voulez, qu'il y ait un référent qui vit les mêmes choses que vous. Il y a des professionnels de santé qui vont vous aider, bien évidemment, qui vont vous apporter des informations avec qui vous allez échanger. Mais sur le quotidien, cela rassure beaucoup les patients d'échanger avec des gens qui comprennent ce qu'ils ont, puisque c'est la même chose. Ils vivent les mêmes contraintes, ils vivent les mêmes symptômes, ils doivent prendre les mêmes types de traitements. Donc ils peuvent échanger, une confiance se crée, puis une dynamique se crée, parce que des groupes peuvent se créer, tant au niveau de ce que je viens de dire, mais on parlait tout à l'heure de la possibilité de faire du sport, parce que l'activité physique est importante, et puis au niveau relationnel, ça peut créer aussi une certaine richesse, une certaine dynamique. Donc soit il y a ce que l'on va proposer au niveau de notre unité, mais qui peut aussi rebondir au niveau de l'association par la suite. Et créer du lien, de la dynamique, et chose importante, un esprit positif. Parce que pour toute pathologie, quand on a un esprit positif, on a déjà tout gagné, quoi.
Et l'esprit, il est important. C'est pour ça aussi que vous avez dans votre équipe des psychologues qui peuvent aider justement à mieux appréhender une pathologie. Parce que certaines fois, le diagnostic de diabète pour un patient tombe comme une véritable masse et quelquefois interprété de façon très catastrophique, et certaines choses sont quand même à relativiser. Et là, l'intervention d'avoir une association de patients qui peut discuter de la pathologie telle qu'elle est et comment ils la vivent, ou d'avoir à côté une psychologue, ça peut être un appui formidable. Donc ça c'est important. Par exemple, vous, Sébastien Lévy, ce côté psychologique, sans que vous soyez psychologue, vous êtes infirmier, mais les infirmiers ont en permanence à le gérer avec les patients.
Oui, tout à fait. C'est vrai que cet aspect psychologique est loin d'être négligeable, et à mon avis, c'est une des premières choses qu'il faut vraiment prendre en compte dans la prise en soin d'un patient. Et donc avec la psychologue de l'équipe, j'en discutais hier avec le patient qui est à l'initiative de cette impulsion de création de l'association, et il me disait, nous, un petit peu le problème qu'on rencontre, c'est quand on croise des copains, des amis, des personnes diabétiques, bon, on sait chacun qu'on est diabétique, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire de ça, comment on peut le partager, ça va pas plus loin. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer cette association et qu'il puisse être repéré comme étant un lieu, un espace d'échange sécurisé et sécurisant, de façon à ce que chacun puisse arriver à se livrer. Et ce que je lui proposais également, en travail, en partenariat avec notre équipe, c'est pourquoi pas, et dans l'équipe, et en tant que ressource de l'association, de pouvoir proposer des groupes de parole de patients qui soient justement multidisciplinaires.
Ça, c'est important, le groupe de parole. Alors justement, parlons un petit peu de ces groupes de parole, mais parlons aussi de l'entourage. De l'entourage, puisque nous avons la question de Claude par rapport à l'entourage, dit-elle. Est-ce que l'entourage sera donc convié à des formations pour mieux comprendre, par exemple, la pathologie de leurs proches ?
Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place, mais ça fait partie des perspectives, puisque on parlait des différents intervenants au niveau éducation thérapeutique, mais il y a également il y a trois points de vue autour du diabète. Le soignant, le soigné et les aidants. Et les aidants ont souvent une part très importante dans la prise en charge du patient. Et donc, c'est une chose sur laquelle on va travailler, notamment sur la possibilité de création d'ateliers pour les aidants. Oui, oui, ça c'est quelque chose auquel on pense, puisque pour rebondir aussi sur ce que disait Sébastien sur l'aspect psychologique, il y a un besoin de confiance en soi des patients. Un diabète, bon, c'est une pathologie, certes, qui est multifacteur, nécessitant une prise en charge médicale et personnelle, mais c'est pas une honte. Hein. C'est pas une honte. J'ai parlé également avec la même personne qui veut créer cette association, qui me disait des fois, même pour lui-même, hein, c'est une prise de conscience, qui disait, des fois, on a du mal à supporter qu'on vienne nous faire une critique si jamais on mange un bout de gâteau au chocolat. Ce qui n'est pas interdit dans le cadre de la prise en charge du patient diabétique. Il ne faut pas en manger des tonnes, évidemment, mais ce n'est pas une interdiction formelle. Et le regard de l'autre, culpabilisant le patient d'avoir fait cette petite entrave, et encore, c'est pas forcément à ce moment-là, on n'en sait rien, est très importante à partager avec les autres, avec un psychologue, avec un groupe de parole, avec les aidants qui ont, eux, leur vision des choses, qui des fois peut être un peu... l'aidant peut être juge du patient, même si c'est dans un cadre de bonne volonté. Tout ça pour arriver à coordonner tout ça, quoi.
Alors, 8% de la population guyanaise est diabétique, hein. Mm-hmm. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. 8%, ça représente un nombre de patients extrêmement élevé. Mm-hmm. Extrêmement élevé. Avec cette chance aujourd'hui que vont avoir ces patients de pouvoir accéder à l'éducation thérapeutique, avec cette chance d'avoir un diagnostic de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire de savoir exactement quels sont leurs besoins par rapport à leurs connaissances pour pouvoir maîtriser au mieux leur pathologie. Aujourd'hui, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients. Alors, est-ce que vous allez être suffisamment fort et suffisamment structuré pour pouvoir accueillir tous ces patients? Ça, c'est la question de Claudia.
Alors, déjà, bon, on va commencer. Première chose. Deuxième chose, on ne se limite pas dans le système à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est ouvert à toute prise d'initiative, si on prend le cas du diabète. Il n'y a pas écrit nous avons l'exclusivité de l'éducation thérapeutique par rapport à notre unité. Au contraire, il y a déjà des prises de contact, par exemple, avec la clinique Saint-Paul, puisque je vous parlais du site internet qui nous permet de fonctionner, qui est le site de Diabète Guyane Obésité. Et la clinique Saint-Paul s'occupe de l'obésité. Donc il y a une volonté de partenariat. On a commencé à se rencontrer pour voir qu'est-ce que l'on peut faire ensemble et mettre en commun les différentes équipes déjà en place. Il y a les ophtalmos qui font déjà des choses de leur côté, avec notamment un qui s'est spécialisé au niveau de la rétinopathie diabétique avec une infirmière formée à l'éducation thérapeutique. Donc, c'est du complément de ce que l'on va faire dans le cadre de l'ophtalmologie, parce qu'il faut savoir qu'il y a les retentissements du diabète au-delà sur différents sites que sont les yeux, le cœur, les reins, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, il y a déjà cette possibilité de prise en charge. Et je vous dis, on est ouvert à tous ceux qui, les maisons de santé qui veulent également se faire de l'éducation thérapeutique et avec des perspectives de thématiques qui leur seront propres tant au niveau médical qu'au niveau paramédical. On parlait de psychologues, il y a des psychologues dans les maisons de santé, il y a des diététiciennes dans les maisons de santé, il y a des médecins, bien évidemment, qui pourront développer certains sujets. Et si on arrive à se coordonner, eh bien, ça permet d'augmenter le réseau d'activités pour recevoir au mieux les patients, nombreux en Guyane.
En tous les cas, on voit que c'est vraiment, vraiment une implication forte de l'ensemble des professionnels de santé, donc, et de l'hôpital, mais également des autres professionnels de santé sur cette éducation thérapeutique, car tout passe par là. Les professionnels de santé ne peuvent pas faire tout pour le patient si le patient ne fait rien pour lui. Donc, il faut absolument que le patient s'implique dans sa pathologie, quelle que soit la pathologie, mais plus particulièrement quand ce sont des pathologies chroniques. Puisque là, comme le disait Élodie tout à l'heure, il y a le temps. Ça dure longtemps. Comme ça dure longtemps, il faut absolument pouvoir tenir dans la durée. D'où la nécessité, bien sûr, de ces ateliers, notamment en termes de nutrition, de diététique, où en effet, il faut pouvoir adapter sans problème une alimentation donc, qui est très personnelle, puisqu'il n'y a rien de plus personnel que l'alimentation, à chacun pour pouvoir avoir les règles, et puis après chacun fait sa sauce avec les règles, on va dire, de façon à ce qu'on puisse arriver facilement à bien maîtriser cette opération. Là encore, dans le temps, quelqu'un qui prendra de l'insuline, eh bien, pour un temps quelquefois un petit peu long, il faut qu'il sache manager un petit peu tout ça, manager cette insuline. Et là, on le voit, ce rôle extrêmement important de l'éducation thérapeutique, de l'infirmier qui va expliquer les règles de base à ce niveau-là. Les médicaments, là aussi, la prise des médicaments avec les pharmaciens qui peuvent être impliqués totalement dans ce processus, puisque là encore, l'observance, c'est-à-dire le fait de pouvoir prendre un traitement selon la prescription du médecin et sur un temps long, là encore, puisque ces médicaments devront être pris pendant très longtemps. Donc là, vraiment, dans ces pathologies chroniques, l'éducation thérapeutique est fondamentale. Et on voit aujourd'hui cet engouement sur cette éducation thérapeutique parce qu'on sait que pour le patient, c'est une des meilleures sources de traitement. C'est-à-dire, c'est une des meilleures garanties que le traitement sera efficace si le patient a bien compris sa pathologie, a bien compris les traitements et ne se contente pas d'avaler des petites pilules en se disant « ça va me soigner » sans comprendre comment elles agissent, en sachant ce qu'ils mettent dans leur bouche et le fait de savoir, bien sûr, bien que tel produit, tel aliment va avoir une conséquence de tel type sur son diabète, c'est fondamental. Bien sûr, tout ça, c'est très important. Et ce développement d'éducation thérapeutique qui était quand même embryonnaire en Guyane, il n'y en avait pas quasiment. Hein.
Alors,
de façon structurée.
Si.
Pour certaines pathologies,
oui,
en tout
voilà.
cas pas pour le diabète.
Pour le diabète, il n'y en avait pas.
Mais pour d'autres pathologies, ça existe déjà.
Oui, alors à titre d'exemple et d'illustration.
Ça fonctionne très bien.
Ça fonctionne très bien. C'est il, déjà depuis de nombreuses années dans le cadre du VIH. Mmh. Si je prends l'exemple du VIH, qui est une pathologie difficile à gérer, tant médicalement, fut un temps, parce que les médicaments avaient de nombreux effets secondaires, donc il fallait les prendre tous les jours, etc., même si ça s'est techniquement bien amélioré depuis, on va dire, une quinzaine d'années, grosso modo. Il existe une cellule d'éducation thérapeutique à l'hôpital de Cayenne et qui a fait ses preuves, parce que je prends deux chiffres à titre d'exemple et pour rassurer les gens et sur l'efficacité de ce qu'est l'éducation thérapeutique. Au début des années 2000, sur des patients, la file active, c'est-à-dire le nombre de patients qui étaient suivis, il y avait à peu près 40% des patients qui atteignaient l'objectif. L'objectif, c'est le nombre de virus que l'on a dans le sang. Je prends cet exemple-là. C'était à l'époque, c'était 50 copies par millimètre cube de sang. Bon, 40%, ce qui était un des plus mauvais chiffres nationaux. Difficulté de prendre son traitement régulièrement, difficulté sociale, etc. Déjà, autour de 2008-2009, je peux me tromper, on pourrait me corriger, mais pour donner un titre d'exemple, on est monté à plus de 80-85%. Et ces chiffres-là, d'après une source sûre, étaient égaux, voire supérieurs, à des résultats de certains CHU parisiens. Grâce à l'évolution des traitements, certes, mais surtout à la mise en place de l'éducation thérapeutique. Il y avait un appui très efficace de ce côté-là. Donc, preuve en est que d'une part, ça marche, chose qu'on savait à d'autres endroits, mais également en Guyane. Et qui puisait pour une situation qui était assez difficile. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans le cadre du diabète, parce que de toute façon, il y a déjà eu des résultats, ne serait-ce que sur ce qui a été entrepris à l'hôpital de jour de Cayenne. Mais en ville, tout est là pour bien commencer.
Quoi. Les résultats, en tout cas, sont là. Quand on voit dans les pathologies chroniques que l'éducation thérapeutique est bien menée, on a des bons résultats sur les pathologies. Parce qu'aujourd'hui, le diabète en Guyane, il y a des diabétiques qui, malheureusement, n'évitent pas les grandes complications. On parlait des rétinopathies tout à l'heure, des problèmes de reins, etc. Et bien, les amputations. On sait qu'aujourd'hui, c'est ça les conséquences d'un diabète qui a été mal mené, mal traité, mal pris en charge et souvent mal compris par les patients. Donc, il faut cette éducation thérapeutique. Ça va être quoi l'objectif? Ça va être de voir si, eh bien, à terme, on a une réduction de tous ces effets secondaires.
Des complications, d'inciter aussi, de communiquer sur la nécessité de dépister. Ou plutôt, parce que malheureusement, vous parliez des insuffisances rénales ou des problèmes de pied du diabétique. C'est souvent le cas quand il y a un problème de dépistage tardif. Et donc, il ne faut pas que les patients hésitent à poser des questions à leur médecin, parce que c'est leur premier interlocuteur, à leur pharmacien qui les redirigera vers leur médecin, de telle manière que le dépistage se fasse le plus précocement possible. Le médecin ne peut pas tout inventer, tout savoir. Hein. S'il ne voit pas son patient, il ne pourra pas le dépister. Donc, il faut se faire des... Et puis, qui plus est, à partir d'un certain âge, on va dire à la quarantaine, poser les questions au médecin. Le médecin saura quoi faire dans la prise en charge ou les bilans nécessaires pour les différents dépistages. Et poser tout un tas de questions. Et puis après, nous, on prend le relais.
Poser des questions et quelquefois dire au médecin, bah tiens, ce serait bien, est-ce qu'on peut me faire un petit dépistage du diabète?
Bien sûr.
C'est simple à faire, c'est vraiment des examens qui sont très très simples et qui permettent bien de savoir où on en est rapidement.
Il ne faut pas le retarder par peur du résultat.
Oui, mais ça c'est dans toutes les pathologies.
Oui, bien sûr.
La peur du résultat,
bien sûr.
On retarde.
Parce que si c'est pris précocement, voilà. Ça peut être bien pris.
Toutes les maladies, plus elles sont prises tôt, plus il y a de chances qu'elles soient soignées. Ça c'est assez général. Et là, dans le diabète, c'est la même chose. Hein. On évite d'avoir ces conséquences rapides sur le corps, puisque plus on attend, plus le corps se dégrade. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est ce sucre, il va dégrader le corps. Donc, il ne faut pas attendre. Élodie, un petit mot pour terminer cette émission. Donc, cette prise en charge pour vous en tant que diététicienne, elle est vraiment fondamentale.
Tout à fait. L'alimentation du diabétique, déjà, est l'alimentation équilibrée pour l'ensemble de la population. Il faut le rappeler que ce n'est pas forcément un régime strict ou contraignant. C'est surtout réussir à s'organiser autour de ses prises alimentaires et de sa façon de manger et de bouger aussi. Parce que la nutrition, c'est comment on mange, mais comment on se bouge aussi, pour pouvoir bien faire les choses au mieux. Et on peut réussir avec des petits trucs, des petites astuces simples et pas forcément onéreuses, de pouvoir manger bien et local pour bien gérer sa pathologie du diabète, tout en pouvant manger convivial. Comme souvent, j'ai déjà vu des personnes qui n'osaient plus manger en groupe parce qu'ils ont peur. On pourra voir aussi, pour tout ce qui est repas extérieurs, de fêtes, en fonction des budgets et des goûts alimentaires des gens, bien sûr.
En tous les cas, pas d'exclusion du diabétique du cercle familial par son alimentation.
Non.
Ça, c'est hors de question. Il y a vraiment des adaptations. Ce ne sont juste que des adaptations. Et en plus, comme souvent, l'alimentation du diabétique est une alimentation qui est saine pour tout le monde. C'est bien également de faire comme ça de
pour
la
l'ensemble.
Prévention pour l'ensemble de la famille. Et ça, c'est très, très important. Sébastien Lévy, pour vous, donc l'infirmier, alors par rapport au diabétique, on peut quand même rassurer ces personnes qu'aujourd'hui, le diabète, ça se traite.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, le diabète va se traiter, va pouvoir permettre une prise en soin du patient de façon à améliorer sa qualité de vie. Déjà, c'est une des grandes informations, je pense, qu'il faut faire passer. De ne pas attendre, comme le disait également Dominique, parce que il y arrive effectivement que certains patients se retrouvent aux urgences un jour pour un problème rénal ou autre. Et en fait, l'entrée dans le diabète va se faire par une néphropathie et qui se retrouve déjà à un stade avancé. Donc c'est fort dommage de ne pas pouvoir avoir anticipé cette maladie-là et donc ne pas attendre, ne pas hésiter par la peur du résultat effectivement, mais de savoir que nous, on peut leur proposer effectivement une prise en soin globale de cette pathologie-là avec une équipe et différents partenaires. Et de toute façon, que le patient, cette démarche-là ne peut s'initier qu'à la demande du patient qui reste vraiment l'élément moteur et central de cette pathologie-là. C'est vraiment à lui de se prendre en main. Et nous, on est là que pour lui apporter des outils.
Que vous apportez des outils. En tout cas, il y a un nouvel outil en Guyane qui est disponible dès lundi 11 chez tous vos médecins généralistes pour l'île de Cayenne, hein, c'est cette éducation thérapeutique pour le patient diabétique. Donc n'hésitez pas, dès lundi, posez des questions à vos médecins traitants pour voir si vous pouvez bénéficier de ce diagnostic d'éducation thérapeutique totalement gratuit. Merci à tous et à toutes d'avoir été aujourd'hui à l'écoute de Faux Os de Savé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain numéro. En attendant samedi, portez-vous bien.